Cela ne t'a probablement pas échappé. Ce que l'on qualifie d'influence a beaucoup, beaucoup changé depuis le début des années 2000. Aux éminences grises que l'on trouvait dans des cercles restreints de dirigeants et de politiques sont venus se joindre les journalistes, membres de ce fameux cinquième pouvoir que constituent les médias, sans oublier aussi des lobbyistes ayant pris le doux nom d'attachés de presse. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, ma chère Cunégonde, lorsqu'ont débarqué les réseaux sociaux. Ces nouveaux médias en mode 2.0 ont permis à tout un chacun de devenir créateur de contenu, ce qui a permis à certains d'aller beaucoup plus loin qu'un simple quart d'heure de célébrité. Les blogueurs sont devenus youtubeurs, twittos et influenceurs, un terme beaucoup plus chic, beaucoup beaucoup plus chic que le vocable blogueur historique. Et puis patatras, certains influenceurs devenus en quelque sorte des stars de la télé-réalité se sont mis à devenir des camelots d'une sorte de téléachat, parfois sans foi ni loi, pour gagner un max d'argent, un max de brousouf, un max de pépettes dans des délais très courts et en le faisant en dépit de toute éthique et de toute responsabilité. Influence ton univers impitoyable, pas si sûr. Si les brebis galeuses, parfois galeuses, occupent le devant de la scène, il existe de très nombreux influenceurs, et ils sont plus nombreux, de très nombreux influenceurs qui travaillent sur un temps long, en respectant leur public, en construisant une relation sur la durée. Un peu comme le font les attachés de presse qui savent travailler sur un temps long et établir une relation de confiance avec les journalistes. Voilà pour mon constat. Mais quels sont les mécanismes de l'influence à cette ère digitale où tout se vérifie, où tout peut faire en quelques secondes un bad buzz involontaire? Comment font les meilleurs influenceurs pour travailler de manière éthique et responsable? Et que peut-on apprendre de leur méthode? Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour tous, Aurélie Sioux, directrice influence, communication et relations publiques de Cision France et auteur du livre blanc « L'influence digitale par celles et ceux qui la font ». Bonjour Aurélie.
Bonjour PPC.
Eh bien bonjour à toi. Grand bonheur de t'accueillir ce matin parce que tu maîtrises parfaitement ce sujet, ça tombe bien. Je voulais te poser pour démarrer la première question. Tu as réalisé plus d'une trentaine d'interviews avec ton livre blanc, L'influence digitale par celles et ceux qui la font. Qu'est-ce que tu as retenu en synthèse ?
Ce qui est intéressant, c'est évidemment la pluralité des points de vue et en même temps la cohérence des points de vue issus des témoignages. Je pense que la première chose à dire, et ça c'est vraiment important, c'est qu'il y a deux influences. Et aujourd'hui, c'est un des grands enjeux du marché de l'influence, c'est vraiment la compréhension de ce qu'on met dans ce terme, finalement, l'influence digitale. Donc, pour revenir à des choses très pratico-pratiques, il y a deux influences. Il y a une influence qui est organique, ce que Nicolas Bordas appelle, lui, profonde, différée, basée sur réellement la proposition de valeur de la marque, tu vois, sa créativité, son expertise. C'est une influence qui a un objectif très simple, c'est de faire passer un message et qui offre aussi à la marque, finalement, de devenir un leader d'opinion, une marque prescriptrice. Et là, on est sur une temporalité qui est vraiment longue. Et ensuite, tu as l'influence qu'on va vendre et acheter, l'influence payante qui est dans une temporalité très courte, qui est immédiate, que Nicolas Bordas appelle l'influence légère et qui là a finalement un objectif qui est purement mercantile. Et c'est là où en fait, on mélange un peu tout, où finalement, on résume l'influence en fonction de raccourcis.
Justement, quels sont les raccourcis qui posent problème, selon toi, à propos de cette influence digitale ?
Le premier raccourci, finalement, c'est de résumer l'influence au marketing d'influence. on entend parler de marketing d'influence, mais on ne cherche pas à aller beaucoup plus loin pour comprendre les mécanismes et les métiers, si tu veux, qui finalement gravitent au sein de l'influence digitale. Donc, si on résume l'influence au marketing d'influence, finalement, on exclut tous les autres métiers qui gravitent en son sein. La com, les affaires publiques, le lobbying, les relations médias, c'est ce qu'en substance, finalement, tu nous disais en introduction. C'est quand même un écosystème d'opinion et de conviction, tu vois, qui a un vrai moteur aussi des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et politiques qui agitent notre société. Résumer l'influence au marketing d'influence, c'est finalement aussi dire qu'on bâtit une réputation à un grand coup de placement de produits, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, on a finalement l'influence et les chiffres. Ça, c'est un second raccourci, l'influence et les chiffres. Je ne suis pas sûre que essayer d'éclaircir le débat en fragmentant, en segmentant les influenceurs en micro, macro, nano-influenceurs. Je dis souvent quel va être le prochain terme, particule d'influenceur, tu vois.
Le pico-influenceur. le pico-influenceur.
Ouais, voilà, exactement. Je ne suis pas sûre, en fait, que ça participe à la clarification. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui compte, c'est évidemment l'engagement. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut regarder, c'est la qualité d'une communauté. Admettons que j'ai 1200 followers sur Twitter, ce qui est mon cas. Je ne suis pas à 100K, 1 million, etc. Mais ce qui est primordial, c'est la qualité de ma communauté. Et c'est la relation de confiance que j'ai bâtie avec eux. Et c'est aussi le fait qu'ils ont ce pouvoir de recommandation. Donc, c'est vraiment la qualité de mes récepteurs hein, qui va donner une part de voix et un écho qui est bien supérieur au nombre de mes followers, en fait. Parce que moi, sur certaines publications, pour être très transparent, je vais faire 25 000 vues, 25 000 impressions uniques. Donc, ce qui veut dire que ça engage après d'autres KPI, comme, je sais pas, le nombre de visites de mon profil, le nombre de clics sur le lien de mon tweet, etc., etc. Et ces mêmes principes sur LinkedIn, même si les temporalités sont différentes. Donc, je ne vais pas comparer l'un et l'autre. Donc, ça, c'est le deuxième raccourci. Et puis, le dernier, et qui est le plus problématique, et finalement qui fait le plus de mal au marché aujourd'hui, c'est de s'attarder sur les dérives en fait, d'un microcosme, qui est celui de la télé-réalité, qui constitue 1% du marché de l'influence digitale, ça faut le dire, c'est important, et qui est finalement la phase immergée d'un iceberg qui est devenu complètement incontrôlable, qui est surmédiatisé, qui fait le plus de bruit, mais plus de mal et le plus de tort au marché de l'influence. Pourquoi ? Parce que là, on rentre effectivement, la guerre que Booba a lancée contre Magali Berda a donné de l'écho à tout ça, encore plus d'écho. On rentre dans une facette, on a un visage de l'influence qui est pratiqué de manière scrupuleuse. Et ça, ça pose problème parce que derrière, si tu veux, il y a des gens en fait, qui sont arnaqués. Il y a toute forme d'arnaque, hein, arnaque au CPF, vente de produits dangereux pour la santé.
Le régulateur s'empare du sujet. Quel est ton point de vue justement sur cette régulation à venir concernant les influenceurs ?
Alors, la régulation, elle est nécessaire dans le sens où elle va assainir un marché qui est en proie à trop peu de responsabilités. Néanmoins, il faut quand même insister sur le fait que si tu veux, depuis plus d'une décennie, il y a énormément d'actrices et d'acteurs de l'influence qui s'autorégulent très bien. Mais il y a encore du chemin à faire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement des bases à poser. Et ça a été c'est l'objectif en fait, de plusieurs propositions de loi qui ont été déposées. La première, c'est celle d'Aurélien Taché, qui m'a invité et a invité Cision à venir donner son point de vue sur le marché de l'influence. Et d'ailleurs, on a sorti le manifeste de l'influence professionnelle, éthique et positive sur notre site, que vous pouvez aller consulter. Mmh. Et puis, par la suite, Bercy s'est emparé du sujet. Et on a deux députés, Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta, qui, eux, ont décidé de rassembler toutes les propositions de loi qui avaient pu être déposées pour finalement proposer quelque chose de très simple. C'est d'encadrer, un, le statut d'influenceur, deux, le statut d'agent d'influenceur, et aussi la contractualisation, si tu veux, qu'il peut y avoir entre les deux, mais aussi entre l'influenceur et les annonceurs, c'est-à-dire pas juste l'influenceur et la marque, mais l'influenceur et les annonceurs. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, même s'il existe des lois à l'heure actuelle, mais qu'il faut clarifier. Donc, on en est là, et évidemment que c'est nécessaire, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a des acteurs importants comme la RPP, le syndicat en conseil de relations publiques, qui ont posé des bases au préalable, et qu'aujourd'hui, il existe un certificat de l'influence responsable et que les marques demandent à ce que les influenceurs y aient adhéré. Donc, il y a quand même une évolution qui est intéressante, et le marché de l'influence, il a énormément évolué en 2022 parce que effectivement, ce combat entre cette très grosse médiatisation du combat Booba-Berda a révélé aux yeux du grand public, finalement, par le biais de pas mal de reportages et d'articles, et notamment le reportage de Tristan Walex dans Complément d'enquête, qu'effectivement, il y avait un gros souci, qu'il est d'une ampleur phénoménale. Mais après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il faut faire très attention à ça. Et l'encadrement, il ne peut pas être appliqué, si tu veux, à des acteurs de la communication qui, eux, finalement, pratiquent une influence plutôt positive, plutôt très positive, plutôt très vertueuse. Et puis parce que on est sur des métiers qui sont différents, tu vois.
Alors justement, je te propose qu'on tourne la page. Le 1% là, qui est pas tout propre, qui amène de la régulation, donc qui va permettre de nettoyer les choses, on va les laisser de côté. Je voudrais qu'on revienne sur, dans ton ouvrage, je crois que tu n'as pas interviewé d'experts du téléachat de produits non responsables, tu as plutôt fait l'inverse. Qu'est-ce qu'on peut tirer et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces influenceurs-là? Comment ils font pour travailler de manière éthique et responsable? Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur méthode? On les reconnaît comment, ces gens-là?
Ce sont des gens qui, en fait, ont conscience qu'ils ont un devoir d'influence, vont pratiquer l'influence avec exemplarité, avec responsabilité. C'est bien là, en fait, que finalement, l'influence responsable, elle prend tout son sens. Un influenceur, il a la responsabilité d'informer et de transmettre avec authenticité, transparence, et d'éclairer aussi et avant tout sur son engagement à finalement contribuer positivement à l'amélioration de notre société. Et donc finalement, on voit aussi ce qui est intéressant dans les jeunes générations d'influenceurs comme Paola Locchetti ou, je cherche son nom, My Better Self. Ce sont des jeunes influenceuses qui profitent aussi de leur notoriété pour faire passer des messages vertueux. Il faut le dire, il faut le redire, l'influence, c'est d'abord un message avant d'être un messager. Et on a cette nouvelle génération qui est hyper consciente que finalement, en tant qu'influenceur, on ne peut plus avoir de comportement climaticide. On a aussi un devoir d'exemplarité.
Ok, très clair. On les reconnaît à ça, finalement. Et puis, ce que j'ai compris aussi de ce que tu disais, c'est que le plus important, en fait, ce n'est pas le metteur du message, non, c'est le récepteur. Et donc, la valeur sur le récepteur. Tiens, Hubert qui te pose la question, est-ce qu'il faut un agent pour être influenceur?
C'est une bonne question. Est-ce qu'il faut un agent pour être influenceur? Je ne pense pas. Pour la simple et bonne raison qu'on voit des gens assez formidables aujourd'hui comme Hugo Décrypte ou comme Bruno Maltor, que j'ai interviewé dans le Livre Blanc, qui sont des gens qui ont une créativité sans faille, dont la prise de parole est hyper éclairante et qui ont eu besoin de personnes finalement pour réussir ça, qui savent aussi appréhender les différentes facettes, tu vois, d'un LinkedIn versus un Instagram, et qui ont compris qu'en fait, il faut diffuser le bon message au bon public au bon moment. Et je ne pense pas qu'ils aient eu besoin d'un agent pour ça. Je pense que ça fait partie aussi des nouvelles générations qui ont grandi avec les réseaux sociaux et le tout mobile.
Ouais, ils ont les codes, ils ont les codes, ils ont les codes. Ouais. C'est pas mal. Tiens, ouais. Question de Zuber. Tiens, ça c'est intéressant de rebondir là-dessus. Il dit, les marques ne s'intéressent plus aux chiffres, les marques aiment la valeur du message. C'est encore vrai ou les marques sont quand même à la recherche encore de ces vanity metrics, j'ai fait tant de vues, tant de machins, etc. Elles se concentrent plus sur la valeur du message aujourd'hui, les marques, ou c'est encore long à venir?
Oui, bien sûr. Non, mais les vanity metrics de moins en moins, parce que c'est un écran de fumée, si tu veux, et tout le monde commence à s'en rendre compte. Mais en fait, je pense que les marques et les influenceurs, parce que la question, elle est là, ils cherchent vraiment, en fait, à partager des valeurs. Que ce soit un Combini qui fait appel à des leaders d'opinion ou un Vivatech. Tu vois, Fabio Gauthier, il l'explique très bien. Il dit que finalement, eux, ils travaillent avec des leaders d'opinion, mais qui partagent leurs valeurs sur le long terme, leurs valeurs sur l'innovation, leurs valeurs sur tout ce qui fait leur écosystème, tu vois. Et c'est vraiment maintenant le partage des valeurs et la mission qu'on s'est finalement donnée qui prime sur les vanity metrics. Ouais.
Laura te dit, le marché de l'influence dépasse les 20 milliards de dollars. Il y a forcément une recherche de retour, soit en conversion pure, nous dit-elle, placement de produits, ouais, soit en image, plus difficilement mesurable si on n'a pas un baromètre de marque en place et des exposés, non exposés. Tu parlais tout à l'heure de la mesure, justement. Les vrais KPI de l'influence, qu'est-ce que c'est? Ces indicateurs, le bon indicateur. S'il n'y en avait qu'un à retenir aujourd'hui, ça serait quoi le bon indicateur de mesure?
Bah, écoute, moi, je vais te donner mon indicateur de mesure depuis 15 ans. qui est basé finalement, et c'est aussi ce que dit Combini, sur la notion d'empowerment, c'est-à-dire la valorisation des autres. En fait, il faut retenir peut-être juste une chose au préalable avant de donner un KPI, c'est que l'influence n'existe pas sans le principe de la réciprocité. L'influence, c'est une conversation. Et en fait, plus tu vas t'intéresser aux autres, et plus ils vont te le rendre, sans même, si tu veux, attendre qu'on te le rende. Mais l'influence, le mécanisme de l'influence digitale, il se situe bien là. Et moi, en fait, mon seul KPI depuis 15 ans, c'est d'être apprécié, entendu et reconnu par les gens que je vais mettre en lumière. C'est mon seul KPI. Et en fait, ça me suffit. Quand on a compris ça, que finalement, dans l'influence digitale, il faut voir ça, c'est une big picture, hein. C'est le fait de mettre, si tu veux, en place une strate d'influence, c'est pas parler que de soi, mais c'est aussi de parler des autres, et qu'en fait, les mécanismes même de l'influence digitale, ça fonctionne comme ça, par communication directe, c'est-à-dire par tes propres médias, et par communication indirecte, par l'activation de ton réseau d'alliés. Parce que c'est aussi ton réseau d'alliés qui donne de la voix à ton message. Et donc, quand on a compris ça, finalement, on a tout compris, quoi. Donc, ce n'est pas tant une histoire de... Enfin, il faut arrêter aussi de se mettre la pression avec les KPI en permanence. Tout dépend de ses objectifs, quoi. Tu vois, aussi, moi, mon objectif, ça a toujours été d'avoir des KPI qualitatifs. Et pas forcément, en fait, encore une fois, pas la quantité, mais d'avoir d'avoir un retour, un espèce de mouvement dans les deux sens, quoi, finalement.
de l'interaction, de la conversation. Alors, tu as posé une question. Tu as posé une question quand on était dans la green room avant de démarrer l'enregistrement de ce podcast. Tu m'as dit j'aimerais bien savoir. J'ai demandé la question les participants qui sont avec nous en direct sur Twitch et sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'influence digitale et c'est quoi l'influence digitale pour eux? Je vais te donner quelques réponses. On va commencer par la réponse de Hubert qui nous dit pour moi, il n'y a pas de différence entre marketing d'influence versus l'influence digitale versus l'influence. Donc lui voit pas de différence entre ces trois strates d'influence. Comment tu réagis au propos d'Hubert?
je suis pas très étonnée, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que le marketing n'existe pas sans la com n'existe pas sans le marketing, mais si on résume l'influence au marketing d'influence, ça veut dire qu'en fait, encore une fois, on exclut toute une série de métiers qui en fait sont les fondements certes du marketing d'influence, mais sans lequel le marketing d'influence n'existe pas. Enfin, je sais pas si mon propos est très clair, mais avant de penser à vendre un produit ou un service, il faut d'abord avoir Enfin, tu peux essayer de vendre un service ou un produit. Si tu n'as pas en amont cartographié tes parties prenantes et finalement mené une réflexion sur ton utilité profonde, tes engagements, ta légitimité les sujets que tu abordes, il va pas se passer grand-chose, quoi. En fait, c'est... Résumer l'influence au marketing d'influence, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, finalement.
Mmh. Allez, autre réponse à cette question que tu as posée, c'est quoi l'influence digitale pour vous? Zuber nous dit, pour moi, c'est informer et partager des astuces, des conseils pour faire grandir son public. Ouais, il nous dit, c'est un peu idéaliste. Comment tu rebondis à son propos?
Non, ça n'a rien d'idéaliste, au contraire. C'est le principe même effectivement de l'influence digitale, c'est d'informer, mais de manière effectivement exemplaire si possible. Et aussi il y a la notion, si tu veux, d'expertise, parce que c'est vrai que avec finalement un pouvoir politique qui est fragilisé au niveau de sa prise de parole, en fait, l'opinion publique, elle a reporté finalement sa confiance sur l'entreprise. Ils se disent, c'est l'entreprise qui va nous sortir de ce mauvais passage, qui dure un peu, entre le Covid et aujourd'hui une crise sociale, etc. Enfin, on est en période permanente de crise, ça, on l'a bien compris. Mais finalement, informer sur, en tant que chef d'entreprise, sur la responsabilité qu'on a engagée pour faire face au Covid. Il y a énormément de dirigeants qui l'ont fait et qui ont très, très bien réussi cet exercice-là pendant le Covid. C'est les Alexandre Bompard, les Dominique Schellcher, tu vois, tous les patrons de la grande distribution. Aujourd'hui, influence et consommation responsable vont de pair. Donc, moi, je ne trouve pas que le propos de notre ami soit... je trouve qu'il est tout à fait cohérent, quoi.
Allez, j'en prends d'autres alors. Alors, j'en profite, j'en prends d'autres. Celui de Vanessa. Vanessa qui nous dit, oui, l'influence digitale, pour elle, c'est le brand voice. C'est l'idée que se fait spontanément d'une marque personnelle ou non, ainsi que sa portée. Charles nous dit, c'est la capacité de réunir des gens autour d'une expérience et d'un regard. J'aime beaucoup cette expertise aussi. Oui, c'est ça, une expertise. Une expertise, des gens autour d'une expertise et d'un regard. J'ai fait le résumé en disant d'une expérience, parce que je pense que c'est intéressant de mettre des expériences aussi. Vincent, quant à lui, nous dit, dès qu'il y a du business... Je ferme les écoutilles, nous dit Vincent. Il est imperméable à toute influence business. Il n'écoute que les gens vraiment authentiques et qui ont des idées sincères et des vrais avis. Donc, dès qu'il y a une marque, il zappe. Tu as observé, il y en a qui sont en train justement de tourner le dos. Dès qu'il y a une marque, ils disent, on essaye de nous vendre, c'est de la pub déguisée. Tu vois ce phénomène ou pas?
Euh... Bah, en fait,
la réponse est non.
Pourquoi ? Dès qu'il y a une marque, je zappe. Tu ne peux pas zapper toutes les marques. C'est la problématique de la régulation aussi. C'est à un moment donné, en tant qu'influenceur ou en tant que marque, on a bien mis le bon hashtag, contenu sponsorisé. Enfin, tu vois, c'est juste un problème de transparence, en fait. C'est un problème de transparence, c'est un problème d'éthique. Après, non, enfin, contraire, je pense que le phénomène a émergé et qu'il est en train de se se réguler.
Ok. On va rebondir, ça sera la...
Au contraire, c'est-à-dire on va vraiment vers une professionnalisation des métiers de l'influence et vers plus d'éthique, d'authenticité et d'expertise aussi.
On va rebondir sur le dernier rebond. C'est les propos de Jara qui nous dit Métaverse. Tiens, il ouvre un petit peu le sujet sur le Web 3. Je ne sais pas si dans tes intervenants, il y en a qui ont parlé du Web 3, des Métaverse. Jara nous dit Métaverse, opportunité ou menace pour les influenceurs. Dit autrement, les marques auront-elles encore besoin des influenceurs dans les Métaverse ?
Moi, je poserais la question dans l'autre sens, c'est-à-dire en fait, les créateurs de contenu et les influenceurs vont récupérer énormément de pouvoir dans le Web3 et dans le métaverse, puisqu'ils n'auront plus d'intermédiaires. Et ça, c'est, enfin, je pense, PPC, que tu en parles mieux que moi. Mais pour moi, la question, il faut se la poser plutôt à l'envers. C'est-à-dire, c'est plutôt les marques qui vont avoir besoin des influenceurs dans le Web3 et le métaverse.
Ouais, Lyon, ça promet, parce qu'on a déjà les réseaux sociaux qui ont besoin des influenceurs, parce que c'est eux qui font les contenus. Donc, s'ils vont tous dans le Web3, ça va être chaud quand même pour les acteurs du Web 2.0.
Mais il n'y aura plus d'intermédiaires.
Ouais.
Tu vois, il n'y aura plus d'intermédiaires qui est la plateforme.
Donc, ouais, après, bon, il y aura toujours des intermédiaires parce que les intermédiaires savent amener de la valeur ajoutée aussi. La nature est en hors du vide. Je ne suis pas inquiet, on trouvera des intermédiaires. Mais c'est intéressant. Voilà. Mille merci à toi d'être intervenu dans ce podcast. Merci beaucoup, Aurélie.
Merci à toi, PPC.
Merci à vous tous d'avoir participé à l'enregistrement de ce podcast, vous qui étiez sur LinkedIn et sur Twitch, comme tous les matins. C'est à 7h20, voilà, de matin, de bonne heure, de bonne humeur. On se retrouve tous ensemble. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Et surtout, d'ici là, fais-toi plaisir.